Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes.
You are fake news.
Il est 9h40 sur France Inter. L'instant M, on est ensemble jusqu'à 10h. Dana Astier, 30 années d'audiovisuel au compteur, c'est ça à peu près ?
33,
allez hop. 11 passés à France Télévisions, les documentaires de France 2 d'abord, puis ceux de la 3. Elle est ensuite nommée en 2014 à la direction de France 3. Elle est même l'une des rares patronnes de chaîne que Delphine Ernotte, la présidente, a gardée à son poste. Seulement voilà, la télé publique est en plein bouleversement, remaniement à tous les étages, coupe budgétaire à la clé. En cette rentrée où la 3 va plutôt bien, elle fait plus d'audience que M6, Dana Astier a décidé de démissionner. Bilan, ça va de soi. Et réflexion, que signifie aujourd'hui diriger une chaîne de télé ? Au fait, à l'heure où chacun pioche ses programmes à la carte sur différents écrans, c'est quoi une chaîne ? Ça sert à quoi ?
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour madame la future ex-directrice de France 3, Dana Astier.
Bonjour à vous et merci de m'avoir invitée.
Poste auquel vous ne serez donc pas remplacée et pour cause, à France Télé, on ne veut plus de patron de chaîne. On va vous expliquer ça très en détail, comment, pourquoi, est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Mais dans l'immédiat, Xavier Delaporte,
bonjour
Xavier Delaporte.
Sonia, bonjour,
je représente bonjour Xavier bonjour. Delaporte car c'est seulement sa deuxième semaine, sa chronique du mardi consacrée au monde numérique, sobrement intitulée la fenêtre de la porte.
Sobrement, c'est le mot qui convient.
Si, c'est ça, c'est la blague de l'équipe. Voilà, en ce mardi, Xavier, on vous écoute.
Oui, ma fenêtre s'ouvre ce matin sur une vidéo, un homme en chapeau de paille se filme sur une plage.
Blue skies, beautiful day. Amazing sea, and not one cafe in sight. Heaven on earth.
Un ciel bleu, dit-il, une journée magnifique, une mer incroyable, et pas un kaffir en vue, c'est le paradis sur terre. L'homme qui se filme est un Sud-Africain en vacances en Grèce. Il se félicite qu'il n'y ait pas de noir sur la plage et utilise pour le dire le mot kaffir, plus péjoratif encore que nigger, et dont l'usage est puni par la loi sud-africaine. Alors cette vidéo, d'abord postée sur la messagerie WhatsApp, à destination donc de copains, est devenue publique, a énormément circulé dans les réseaux sociaux, provoquant une réaction en chaîne. Alors d'abord, cet homme a été identifié, il s'appelle Adam Katsavelos, 39 ans, salarié d'une entreprise familiale de fabrication de sauce. Enfin, il l'était salarié, car même si sa famille s'est vite désolidarisée de ses propos, elle l'a licencié et l'entreprise a dû fermer, les clients ayant annoncé qu'il mettait un terme aux commandes. Et les parents ont même quitté le pays. Même l'employeur de sa femme, Nike, pour ne pas le citer, a dû fermer temporairement des magasins suite à un appel au boycott. Par ailleurs, les internautes ont rendu public l'adresse de cet homme, mis en ligne des photos de sa maison et il a été interdit de pénétrer dans l'école de ses enfants. Alors le type a tenté des excuses qui sont assez minimalistes. Une plainte a été déposée contre lui, il risque la prison. Autrement dit, sous une pression populaire activée par les réseaux, une insulte raciste a ruiné la vie de cet homme pour reprendre le titre du Monde. Alors pourquoi cette histoire m'intéresse ? Pas pour pleurer sur cet homme, évidemment, mais parce que du fait qu'il s'agit d'un acte raciste, on oublie de s'interroger sur la mécanique qui s'est déclenchée contre lui. Or, cette mécanique, elle pose problème. D'abord, cette vidéo est au départ destinée à rester privée, à la différence d'un tweet, par exemple, qui est une forme d'intervention dans le débat public. Mais il y a tout ce qui se passe après. Des internautes fouillent dans les réseaux, trouvent des informations, les rendent publiques, et peu importe si elles atteignent des proches qui n'ont rien à voir avec tout ça. Alors, on peut se réjouir que les réseaux permettent ça, d'aller traquer le racisme, précisément là où il perdure, là où il est ancré, c'est-à-dire dans ce qui a l'air de rien, dans le quotidien, dans les blagues entre copains. On peut considérer que tous les moyens sont bons pour ça. En même temps, on la connaît cette manière de faire, se ruer virtuellement sur une personne, divulguer des informations personnelles, etc. Et on la déteste quand ce sont les débiles du forum 1825 de jeuxvideo.com qui la mettent en branle pour s'attaquer à quelqu'un qui leur déplaît. Et là, parce que le type est raciste, ça choque plus personne. Bref, on ne questionne plus un procédé détestable quand il dénonce un acte immonde. Bien et mal se mêlent de manière presque indistincte. Alors, le philosophe Bernard Stiegler, figurez-vous, utilise depuis longtemps un très beau concept pour désigner les technologies et ce qu'elles nous font. Il dit qu'elles sont un pharmacon, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois remède et poison. Elles sont en même temps un remède et un poison. Ça veut dire qu'il est illusoire de séparer ce qui est bon ou mauvais en elles. Elles sont à la fois bonnes et mauvaises. Alors tout ça ne nous aide pas à trancher les dilemmes moraux que nous pose notre vie numérique, mais au moins ça explique un peu notre malaise.
Merci Xavier, on referme la porte.
Ouais, la fenêtre. Ou la porte, je sais plus. On est perdu.
Dana Astier voulait faire une blague sur le titre de cette chronique.
Je me souviens. Enfin, bah, brillante chronique.
Merci Xavier. La fenêtre de la porte, elle est donc à réécouter sur franceinter.fr ou à podcaster.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Dana Astier est donc mon invitée, directrice de France 3 jusqu'à la fin du mois, et puis s'en va. France 3 et ses rendez-vous, ses marqueurs très populaires, très ancrés dans la vie des téléspectateurs.
Bonjour à tous, et ben voilà, c'est reparti pour une nouvelle saison de Météo à la carte, soyez les bienvenus. Bonsoir à tous, nous entrons dans une semaine spéciale région française.
Je suis tombée amoureuse. T'as pensé à nous ?
Maman qui se tire avec une meuf, papa qui part en tôle. C'est cool, non ?
J'aimerais tellement que tout revienne comme avant.
On est vraiment bien sans elle.
Par ordre d'apparition, Météo à la carte, le rendez-vous du déjeuner de Laurent Romeshko. Très très suivi, question pour un champion, et plus belle la vie. Plus de directeurs de chaîne bientôt à France Télévisions. Décision prise par Delphine Ernotte, la présidente, et son numéro 2, Takis Candilis. À la place, il y aura des directions transversales. Une pour les documentaires, ce devait être vous, d'après ce que j'ai compris. Une pour les magazines, une pour les divertissements, une pour les fictions, etc. Et un pôle de programmation qui dispatche les programmes sur chaque antenne en fonction de son positionnement. Voilà. Avantages et inconvénients de ce virage stratégique, Dana Astier.
Écoutez, franchement, j'en sais rien. Moi, j'ai pas de vision a priori sur ce que doit être l'organisation d'une entreprise. Moi, je suis pas qu'une dirigeante de France Télé. Je suis aussi un sujet, et j'avais pas très envie de repartir sur 6 mois de réorganisation. J'ai réorganisé le réseau régional de France 3 il y a 3 ans. Moi, je suis quelqu'un d'éditorial, de programme, donc voilà, j'ai plutôt envie de me dire que je vais passer d'abord, je vais prendre un peu de temps pour réfléchir, pour lire, pour regarder des choses, pour écouter.
Et puis les documentaires, vous aviez déjà fait.
Et voilà, donc voilà, moi, ça ne me choque pas qu'on essaye de faire autrement. Clairement, la télévision bouge. Clairement, les programmes doivent être une priorité, les contenus doivent l'être. Donc, ça ne me choque pas du tout.
Et en même temps, combien de projets n'ont pas trouvé preneur sur une antenne de France Télé, France 2 par exemple, et en même temps sont nés avec bonheur sur France 3, ou ne sont pas nés sur France 5, mais finalement sont nés sur France 2, et pareil entre France Télévisions et Arte. Parce que tout simplement, les producteurs, les auteurs, les réalisateurs trouvent d'autres équipes, d'autres visions, d'autres interlocuteurs, d'autres humeurs, et que cette diversité-là, qui permet à des projets qui n'ont pas été acceptés quelque part de naître ailleurs, elle fait quand même la force du service public, elle fait la force de France Télévisions. Moi, ça, on ne risque pas de s'en priver.
Moi, j'avais trouvé une solution qui consistait à mettre en exergue les conseillers de programme qui devaient être comme des éditeurs. Mm-hmm. Je considère que l'unité documentaire de France Télé doit être comme une grande maison d'édition, mm-hmm. où le conseiller de programme devenu éditeur porte un projet, convainc sur, comme un manuscrit, convainc sur un projet de film documentaire. Donc je pense qu'il y a largement de quoi faire pour éviter évidemment qu'un patron, le directeur d'unité doit devenir un manager, il doit mettre en valeur son équipe, il doit les écouter et il doit veiller à ce qu'au contraire la diversité soit respectée et que le plus de programmes possibles voient le jour. Donc de ce point de vue-là, ça ne m'inquiète pas. Il y a vraiment moyen, notamment en documentaire, parce que les gens sont quand même assez spécialisés, compétents. Mmh. Quand vous êtes compétent en sciences, vous savez pas forcément faire de l'histoire, et quand vous savez faire de l'histoire, vous savez pas forcément faire de la culture. Donc, à mon avis, il y a largement de quoi faire dans l'équipe pour éviter ce côté guichet unique pénible et absolument inacceptable.
Alors, en même temps, ça pose une question essentielle, c'est comment se construit l'identité d'une chaîne de télévision ? Et ça, vous y avez beaucoup, beaucoup réfléchi depuis 4 ans que vous dirigez France 3. France 3, évidemment, a une identité et on pourrait la simplifier, la marketer, même la caricaturer. On peut dire, voilà, c'est la chaîne des régions, du patrimoine, de l'histoire, avec un H majuscule, avec le public le plus âgé du PAF.
Mais si un an près.
Ah bon ?
Oui, non. Je crois qu'Arte est d'un an plus âgé que nous. Et en fait, France 2, France 5, France 3, Arte se suivent à un an près. Ce qui n'est pas pour nous réjouir.
Non,
la seule chose que je dois dire, c'est que par exemple, le documentaire qui marche très bien en replay, on a un public beaucoup plus jeune. Mm-hmm. Donc ça, c'est des choses qui font plaisir.
Alors
donc,
justement...
Le genre, effectivement, une fois qu'il est sur le numérique,
ouais.
Il a un autre public. Donc ça, c'est très excitant.
Alors justement, la question, c'est, voilà tous les prérequis de l'identité de France 3 que je viens d'énoncer. Si on dispatche les programmes de France 3 uniquement en fonction de ce cahier des charges, est-ce qu'on risque pas d'appauvrir la chaîne? Est-ce qu'on risque pas de l'enfermer dans des petites cases toutes faites et finalement de l'affaiblir, de la priver de sa richesse, des surprises qu'on peut proposer aux téléspectateurs?
Ce que je recommande, c'est que ils se mettent à fonctionner de cette façon parce que la présidente l'a décidé et donc c'est comme ça. Et puis ils peuvent corriger au fur et à mesure. Mm-hmm. Peut-être qu'ils se rendront compte dans 2-3 ans qu'il faut apporter des correcteurs. Donc on ne sait pas bien. Mais le fait de mettre des grandes directions d'unité de manière un peu... de les favoriser, de les privilégier, de leur laisser mener des vies éditoriales, mm-hmm. notamment sur le numérique, avec plus de liberté, moins de contraintes, notamment d'audience... Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est à quel point c'est compliqué d'être ailleurs quand on fait de la télé. On a essayé d'imposer le baromètre qualitatif qui mesure l'impact d'un programme. Est-ce que ouais. vous y repensez une fois qu'il est terminé? Est-ce que vous en parlez avec vos collègues?
Pas seulement du quantitatif, voilà. Combien de personnes devant la télé?
On n'y arrive pas. Le magazine, quel qu'il soit, ou le documentaire, a des notes d'impact absolument remarquables. On n'arrive pas à en parler. Moi, j'ai fait chaque année plus de 30 primes documentaires avec des grandes plumes oui. De ce genre magnifique. Mais on ne parle que des fictions, on ne parle que des jeux. On n'arrive pas à avoir un discours sur le documentaire. De temps en temps, on a droit à un papier dans Télérama. Mais or, j'ai fait autant pour le documentaire que pour la fiction sur France 3. Ça n'existe pas. C'est un peu difficile quand on est quelqu'un comme moi qui se bat pour quand même maintenir un certain niveau de quantité, de qualité pour les programmes dits culturels.
J'avais justement une question sur une chaîne populaire. Sur votre bilan documentaire, oui. Parce que vous étiez venu nous parler et lancer une grande collection de portraits politiques au moment de la campagne présidentielle. France 3 avait fait un choix très clair, c'est-à-dire...
Oui, c'était 6 mois.
Voilà, 6 mois de documentaires politiques oui. avec des portraits tous azimuts oui, de oui. tous les candidats potentiels à la présidentielle. Et finalement... Il n'en était pas sorti grand-chose.
Non, mais en fait...
D'abord en termes d'audience, oui. si on veut reprendre les chiffres, mais aussi qualitativement, Dana Astier.
Oui, moi je suis moins sévère, mais c'est normal, quand on fait les choses, moi je les fais à fond et je peux me tromper. Clairement, je pense que leur échec d'audience annonçait l'arrivée de Macron, d'une certaine manière. En réalité, on n'a pas réussi à intéresser sur Juppé, on n'a pas réussi à intéresser sur Fillon, on n'a pas réussi à intéresser sur... tous les autres, et c'était un symptôme, parce qu'en fait, en réalité, ça mesure évidemment la popularité d'un homme politique, c'est en ça que c'est assez amusant. Et les deux qui ont bien marché, c'est Mélenchon et Macron.
Bah tiens.
Voilà. Mais bon, après...
Revenons vraiment à cette oui. question passionnante qui est comment on définit l'identité d'une chaîne et qu'est-ce qui sera une chaîne à l'avenir. La série d'entretiens de Vladimir Poutine par le cinéaste oui. Oliver Stone, oui. le cinéaste oui. américain oui. Oliver Stone, c'était sur France 3. C'était très inattendu sur France 3, on en écoute un extrait.
Nous aimerions connaître votre parcours, d'où vous venez. Je sais que vous êtes né en octobre 1952, donc après la guerre, que votre mère travaillait en usine, que votre père avait fait la guerre et que vous avez grandi dans un appartement communautaire avec d'autres familles.
Ma mère n'a jamais travaillé en usine, mais mon père, oui.
Si on suit cette logique, Dana Astier, à chaque chaîne son créneau et France 3, c'est les régions, c'est le patrimoine. Eh ben, il n'y aurait jamais eu d'Oliver Stone filmant Vladimir Poutine sur France 3. C'est ça que j'essaye de comprendre. C'est comment on risque d'enfermer une chaîne dans la caricature d'elle-même.
Je ne peux pas prédire ce qui va arriver. Moi, non. Ce que je peux vous dire, c'est comment j'ai réfléchi cette chaîne. D'abord, comme je vous l'avais dit il y a un an, cette chaîne a une histoire. On ne peut pas bousculer des médias forts comme ça, puissants, même s'ils sont affaiblis, ils restent encore puissants. Puis France 3 va très très bien. Hein. Donc en fait... le public de France 3, c'est un public qui s'appuie sur l'info régionale, les jeux, qui sont des jeux plutôt de culture populaire, de culture, et la fiction. Et ces trois types de programmes permettent de faire du documentaire, du spectacle vivant, des magazines de découverte, des magazines de patrimoine, etc. Donc en fait, c'est un équilibre. Encore une fois, je cite toujours l'exemple d'un éditeur. il a besoin d'avoir quelques best-sellers pour publier des premiers films, des premiers livres. Mmh. Donc, j'ai raisonné de la même manière. J'ai équilibré cette chaîne.
Donc, elle la preuve que quand on a des fidèles, il y a des France 3 assez fidèles, il faut aussi parfois les bousculer.
Alors,
un peu.
C'est un peu
il faut les emmener un peu à l'étranger et pas que dans le Poitou-Charentes.
C'est pas forcément le même public.
Il faut proposer des choses un peu plus jeunes à des gens plus...
Évidemment. Ben oui. On est là pour ça.
Eh ben oui, mais c'est toute l'interrogation sur la réorganisation et ce qu'elle va produire à l'avenir.
Je ne sais pas ce que va donner cette réorganisation. Je comprends qu'on s'interroge parce que quand même globalement l'audience de la télévision baisse et que je comprends qu'un patron s'interroge sur est-ce qu'on a la bonne orga pour faire face à la révolution
parlons de ce qui fait une grosse locomotive d'audience. Vous venez d'en parler, il faut des blockbusters, il faut des best-sellers comme on dit dans l'édition. Parlons de la fiction de France 3. Je vous fais écouter un petit extrait de Meurtre en Pays d'Oléron. Michel Simès, figurez-vous, était en guest star ce jour-là.
Marc Mignas, ça vous dit quelque chose?
C'est un des plus gros ostréiculteurs de la région. Enfin, c'était.
C'est quoi ce cimetière? Vous êtes renseigné? C'est bizarre, il n'y a pas de nom sur les tombes.
C'est un ancien cimetière protestant abandonné il y a plus de 3 siècles. À l'époque, les protestants enterraient leurs morts sans préciser leur identité. Les pierres tombales étaient anonymes.
On s'est pas présenté?
Non. Docteur Vincent Lazare, médecin légiste, historien local. Bienvenue dans la région.
Bon, je suis pas sûre qu'il ait de grands talents de comédien, mais les gens l'aiment beaucoup.
Vraiment.
De Capitaine Marlowe à La Stagiaire, gigantesque succès populaire. Est-ce que c'est un piège, ces audiences d'Anna Astier? C'est un piège quand la série change, la fiction télé change, tout le marché de la série change, et que France 3 continue de produire et de diffuser des fictions comme on les tournait il y a 30 ans?
Non, je ne pense pas. On a dans un premier moment, quand je suis arrivée, il y avait Mongeville, Magellan, les Meurtras, et on a avancé avec le directeur de l'antenne et la directrice de la fiction. On a diversifié, on est passé modernisé sur France 3, c'était déjà féminisé. Donc ça, je crois qu'on a bien réussi.
Féminisé, vous voulez dire les héros, les histoires,
c'était des femmes
qui
menaient l'action et non, elles n'étaient plus numéro 2, numéro 3. Mm-hmm. Ensuite, on a quand même créé cette case fiction débat avec Marion 13 ans, le viol. On a une très belle série qui arrive d'Alain Tasma aux Animaux la guerre. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour ne pas détruire l'image et l'audience de la chaîne en fiction, de la diversifier au maximum. On ne peut pas faire complètement ce que l'on veut quand on dirige une très grande chaîne, quand on dirige une des 4 grandes chaînes françaises.
C'est pour ça que vous arrêtez?
Je crois que je suis arrivée au bout.
Ouais.
Et dans une forme d'accomplissement. Voilà, c'est bien de savoir partir à temps. C'est comme les histoires d'amour, faut savoir les arrêter à temps.
Pourquoi vous vouliez supprimer ce soir 3? Parce que c'est ce qu'on vous attribue perpétuellement,
oui, mais
de vouloir supprimer
fait.
Le rendez-vous d'info du soir.
Le supprimer, je n'ai pas été jusque-là, mais il faut faire des soirées en continu. Notamment sur le documentaire, quand vous faites 2 documentaires l'un derrière l'autre, même sur des sujets pointus, exigeants, des films d'auteur, vous vous rendez compte que vous avez une puissance équivalente à la fiction sur la journée. Mm-hmm. Donc c'est vrai que plus personne ne diffuse en ayant deux parties de soirée qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Donc c'est vrai que il faut regarder comment les privés programment pour programmer comme eux et garder des contenus de service public.
Et les contenus de service public, c'est de l'info aussi, et c'est de l'info de qualité aussi. Le soir,
oui,
et c'était aussi la mission du soir.
On n'a pas forcément besoin d'avoir un journal après 2h30 après la fin de celui de France 2. Par contre, quand le soir 3 existe, après les 2 premières parties de soirée, c'est une évidence. Mais c'est vrai que, moi je devais aussi faire de l'audience et je ne regrette pas parce que je laisse une chaîne en très bon état.
Merci beaucoup, Anna Astier.
Merci à vous.
Bonne période de réflexion. Et puis ensuite, vous revenez nous voir. À très bientôt. C'est la fin de l'émission. Bonjour, Ali Réveilly.
Bonjour, Sonia Deviller.
Alors.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que nous dit Schopenhauer? Aujourd'hui est mauvais et chaque jour sera plus mauvais jusqu'à ce que le pire arrive.
À peu près, oui.
Ah oui, donc vous êtes plutôt pessimiste. Mmh. Donc, si vous êtes plutôt optimiste, appelez-nous.
Et j'aime les pessimistes.
Et j'aimerais que vous me
ayez
disiez...
confiance en vous. Amis pessimistes, vous avez le droit de ne pas y croire.
Exactement. Comment cultivez-vous votre optimisme? 01 45 24 7000. Et dites-nous également si les optimistes ont le don de vous agacer.